Jean-Paul Salomé, bonjour.
Bonjour.
Donc, nous nous retrouvons 2 ans après, c'était la Daronne,
ouais.
Où nous étions vus donc en 2020 avec Isabelle Huppert, qui est également la tête de file de la syndicaliste. Elle incarne Maureen Kearney, qui est déléguée syndicale chez Areva, un groupe nucléaire, où elle va s'opposer à sa direction pour empêcher les transferts de technologies entre la France et la Chine. Alors, votre film est inspiré de l'ouvrage de Caroline Michel-Aguirre, mm-hmm. qui était sorti fin août 2019. Je me suis demandé si vous aviez eu le privilège d'avoir le manuscrit avant sa sortie.
Non,
ou c'est au moment de l'ouverture.
C'est au moment de la sortie du livre. J'ai lu un tweet qui parlait du livre, et ce tweet m'a intrigué, et du coup je suis allé sur Internet, j'ai regardé, j'ai acheté le livre, je l'ai lu, et je suis allé sur Internet, j'ai regardé tout ça. Et en lisant le livre, j'ai été happé par cette histoire. Le livre qui est une enquête, qui n'est pas un roman. Hein. Le livre, c'est une enquête d'une grande journaliste de l'Obs,
ouais.
Qui est une grande plume de l'Obs, et qui a mené aussi son enquête sur l'affaire de Maureen Kearney, et qui trace des pistes et des hypothèses, etc., que je trouve extrêmement intéressantes. Et puis surtout, c'est dégager cette histoire incroyable de cette lanceuse d'alerte qui a été broyée, physiquement même, hein, on peut dire, qui a été broyée par ce système et dont on a remis, en tout cas, la véracité de son témoignage et qu'on a mis en cause, elle est passée d'un statut de victime à un statut de coupable, ce qui est quand même ahurissant dans cette histoire, dans ce cas d'affaire de lanceuse d'alerte. C'est ça que j'ai trouvé...
Ça s'est monté vite, finalement.
Entre
votre lecture et les
oui, ça s'est monté relativement vite. Ça s'est monté relativement vite parce que il y avait cette base très très documentée du livre de Caroline Michel-Aguirre, parce que sincèrement moi je connais rien dans le nucléaire, je suis pas un spécialiste de la question nucléaire française, et le film n'est d'ailleurs pas un film sur le nucléaire. Elle défend le nucléaire parce que elle défend les 50 000 emplois qui sont dans le nucléaire. C'est ça qui est important de comprendre. Et puis parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça redevient très d'actualité. Et que rétrospectivement, quand on voit cette histoire, c'est quand même une des premières pierres qui fait que aussi on en est là aujourd'hui. Donc ça, c'est assez fascinant. Mais ça s'est monté vite aussi parce que Isabelle a été dès le début. C'est-à-dire qu'on avait fait la Daronne, on avait envie de retravailler ensemble. Quand j'ai lu le livre, je lui ai fait lire le livre. Elle a été fascinée. Elle m'a dit on y va, écris le scénario et on va le faire. Donc c'est quand même ça aide à aller vite après quand vous avez Isabelle.
Vous auriez pu prendre finalement le pli de faire une fiction, une sorte de fable économico-politique, mais vous avez choisi plutôt l'optique de vous coller à une réalité avec des faits. Isabelle finalement qui est une sorte de copier-coller, comme elle le dit elle-même,
oui.
de Maureen, coiffure, maquillage, lunettes, etc. Marina Foïs aussi.
Oui.
Vous parlez de Luc Courcel, interprété brillamment par Yvan Attal. Vous citez, et mettez en présence à Arnaud Montebourg. Enfin, je veux dire, est-ce qu'à un moment, vous aviez dit, tiens, je vais plus en faire une fable politique ?
Non, je ne voulais pas en faire une fable. C'est-à-dire que je voulais qu'on y croie. Je voulais qu'on croie cette femme. Parce que c'est quand même le minimum. Cette femme dont la parole est remise en cause, dont certains hommes n'ont pas cru le témoignage, je trouvais que le film devait lui rendre la justice pour qu'on y croie, et pour qu'on montre un peu ce qu'elle a vécu pour faire éclore cette vérité. Et donc je voulais absolument qu'on soit investi, qu'on y croie, que le spectateur, peut-être travers des doutes, comme certains personnages du film ont douté d'elle, et ça je trouvais que c'était important de continuer à avoir ce doute, mais... Je voulais qu'on y croie, qu'on comprenne cette histoire et qu'on aille vers le portrait de cette femme. Et ça, pour moi, il y avait une vérité à atteindre sans être dans le documentaire. Et puis parce que c'était aussi des références de ces films américains des années 70, comme Les Hommes du Président, ou des films d'Alain J. Pécula, jusqu'à l'affaire Pélican ou d'autres, ou les films de Costa Gavras, pour parler du cinéma français.
Merci.
Italien de Francesco Rossi. On y croit quand même, c'est du cinéma, mais on y croit. J'avais envie de retrouver cette fibre-là.
Un personnage qui a des doutes, et on ne sait pas finalement s'il les conserve, c'est celui de l'adjudant-chef, interprété par Pierre de la Donchamp.
Oui, Roland
Gras.
Roland Gras, qui, dans la réalité, il n'y avait pas un seul personnage, mais ils ont été plusieurs enquêteurs, mais néanmoins, ils ont tous eu la conviction que cette femme... mentait, il ne racontait pas la vérité. Et ce qui est assez fascinant, c'est que je crois avoir entendu il y a peu de temps encore l'un de ces personnages témoigner dans une émission radio, et qu'il, pour lui, les doutes existent toujours.
Ah ouais.
Et c'est ça qui était assez incroyable. Et ce qu'a très bien fait Pierre de Lalanchant, où là, pour des raisons de récit dramatique, dramaturgique, de dramaturgie et de récit cinématographique, on a concentré sur un personnage, même s'il a des adjoints, etc. Évidemment, il ne fait pas cette enquête tout seul, mais dans le film, c'est lui qui mène l'enquête. Mais le fait que, dès le départ, l'enquête soit orientée dans une certaine direction, et comme une espèce de vis qui commence à mal s'enfoncer dans le bois ou le clou qui part de travers, l'enquête est partie de travers dès le départ. Pour des raisons qu'on a un peu de mal à s'expliquer. Mais en tout cas, c'est ça.
Alors, un autre personnage important, c'est celui de d'Anne Lauvergeon, interprétée par Maya Fruis, qui est donc présidente d'Areva. Est-ce qu'elle est, vu sa position, complice de ce scandale d'État? Est-ce qu'elle est, elle est naïve, incrédule?
Bah, je ne pense pas qu'elle n'est pas complice, mais disons qu'elle est... En plus, elle est à une époque où elle a été virée de chez Areva. Elle est partie pas de son gré, hein. Elle a été remerciée et remplacée par celui qui était son numéro 2, donc Luc Courcel. Je pense que c'est de notoriété publique qu'elle l'a mal pris, que Areva, elle en avait fait quand même quelque chose. Après, elle a été extrêmement critiquée sur ses méthodes, sur tout ça, ça peut-être, mais en tout cas, de son règne, Areva est devenue une puissance industrielle forte et en tout cas quelque chose au niveau mondial. Et à la fin de cette expérience, il y a eu toute l'histoire avec Maureen Kearney, mais où elle n'était plus à l'époque présidente d'Areva. Néanmoins, ces deux femmes avaient des liens, et ces liens, tels qu'ils ont été décrits et par Maureen Kearney et par Caroline Michel-Aguirre dans le livre, se sont distendus. Voilà. C'est-à-dire que cette complicité dans le travail... s'est distendu avec cette affaire pour des raisons je ne sais pas lesquelles exactement, mais en tout cas je pense que le personnage de Anne Lauvergeon a d'une manière ou d'une autre pris ses distances avec Maureen Kearney parce que le personnage de Maureen Kearney n'était pas, et quand il est passé de la victime à la coupable, il y avait quelque chose qui était compliqué à gérer, je pense, dans l'entourage de Maureen Kearney et dans l'ancien entourage professionnel.
En tant que citoyen lambda ou spectateur qui reçoit ce film et ses émotions, on a l'impression de se dire qu'on est loin de tout savoir et comme dirait l'humoriste, on ne nous dit pas tout.
Moi, je ne suis pas de naturel paranoïaque. Donc, je pense que oui, évidemment, il s'est passé des choses et qu'il y a des zones d'ombre qui restent sur cette affaire, qui finalement n'a pas été totalement élucidée, vu que jamais concrètement on a compris et la justice a trouvé qui avait agressé Maureen Kearney, sur l'ordre de qui, pourquoi, bon, etc. Des pistes sont suggérées, mais rien n'est prouvé. Caroline Aguirre a fait une enquête, a découvert certains éléments troublants qui sont dans le film, mais qui ne s'étaient sur aucune chose juridique. Enfin, c'est des pistes. Ces pistes sont réelles et elles existent, mais ça n'a pas été suffisant, visiblement, pour que la justice décide de rouvrir... C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que pour que la justice rouvre, il fallait que la seule à pouvoir faire ouvrir tout ça, c'était Maureen Kearney. Or, je pense que Maureen, à l'issue de tout ce qu'elle a vécu, n'était pas dans un état psychologique et une volonté de vouloir recommencer tout à zéro. Donc ça, je peux comprendre. Ce qu'on peut trouver bizarre, c'est que personne n'ait jamais essayé de savoir ce qui s'était vraiment passé. Voilà, ça c'est une réalité, et c'est ce que le film dit et montre aussi. Sans être parano, mais en tout cas, oui, c'est vrai que l'affaire n'est pas élucidée.
Alors en tant que Belge, fatalement, il faut que je vous parle de Marat Taquin,
Oui.
Comment avez-vous été chercher Mara, qui joue la fille de Maureen et qui finalement tient la dragée haute à ses partenaires, hein. Voilà, la fameuse réplique « ton fric radioactif
». Oui, ben, disons que l'envie, au-delà du thriller politique, de faire aussi le portrait de cette femme, et c'était aussi de comprendre comment elle avait vécu tout ça de l'intérieur, et que forcément sa famille avait une importance importante, une vraie importance, à travers et son mari et sa fille, qui était très présent autour d'elle. Et quand on a écrit avec Fadette Drouard le scénario, on a rencontré Maureen, son mari et sa fille. Et lors de cet entretien, c'était amusant parce que c'était touchant de voir cette famille, parce que chacun tenait quand même son rôle. Et le mari avait une sorte d'humour détaché, de cynisme comme ça, un peu sur les choses et amusé. Et sa fille, très à vif, on sentait qu'il y avait quelque chose. En tout cas, on avait envie de mettre en lumière des rapports familiaux, je dirais, entre guillemets, classiques, presque. Alors que l'histoire qu'ils vivent, on les plonge dans un drame et dans quelque chose d'absolument abominable. Mais eux ont survécu parce que cette cellule familiale a existé malgré leurs différences, malgré des fois leurs antagonismes et comme dans toutes les familles, les étincelles que ça crée. Et ça, c'était assez amusant. Et Mara était formidable. On a fait un casting, j'ai rencontré des jeunes comédiennes, plusieurs, de très très bonnes. Mais au milieu, il y a eu Mara, que j'avais vu jouer dans un film qui s'appelle Rien à foutre,
avec Adèle
et Exopoulos. J'avais trouvé formidable. Et en la voyant, le fait d'avoir rencontré la vraie fille avant, même si physiquement, c'était pas du tout pareil, mais dans leur caractère, et dans leur manière de parler, dans le côté un peu rude que peut avoir Mara, même dans la vie comme ça, très franche, très... voilà. Je me dis, tiens, elle est proche de la vraie, et ça peut être vraiment formidable. C'est-à-dire qu'elle va comprendre ça. L'antagonisme, elle a le talent pour tenir face à Isabelle, parce que quand même... Voilà, c'est
personnalité quand même.
Ça peut être un peu impressionnant pour une jeune comédienne. Je pense que Mara l'était, mais... Au-delà de ça, elle est tout de suite rentrée dans la peau du personnage, elle a tout de suite compris des intentions. Parce que c'est très compliqué sur des personnages secondaires comme ça. C'est un film où il y a beaucoup de personnages. Il faut que le trait soit très précis rapidement pour que le spectateur comprenne. Il n'y a pas beaucoup de scènes pour expliquer tout ça. Il faut que dès la première scène, on comprenne quels sont les rapports entre la mère et la fille, ce qui va moins bien, pourquoi elles sont comme ça, pourquoi il y a l'antagonisme, pourquoi en même temps elles s'aiment et pourquoi elles peuvent se friter un peu entre elles. Voilà, et ça, c'est le talent de la comédienne qui doit faire passer ça. Et Mara avait ce talent et cette conviction incroyable qui fait qu'elle est une fille formidable. Ouais.
Jean-Paul, un grand merci. On rappelle La Syndicaliste qui sort le 8 mars.
Oui.
Merci.